Les informations fait l'équipe et la monde.
Quelques jours seulement nous séparent de l'annonce par la CEI des résultats provisoires du scrutin du 30 juillet dernier. En attendant cet événement, c'est la SENCO qui donne de la voix. Dans une déclaration publiée hier, la Conférence épiscopale nationale du Congo appelle au respect de la volonté du peuple exprimée aux urnes et veut que les opérations restantes se passent en toute transparence. Nouvelle tentative d'évasion à la prison centrale de Bounia en l'espace d'un jour. Celle d'hier n'a pas été sans dégâts. Des passages à Bounia, les chefs de la MONUC annoncent la contribution de son institution pour faire face à la crise qui paralyse cet établissement pénitentiaire. La province du Maniema souffre du manque criant des médecins spécialistes en gynécologie obstétrique. Pourtant, les femmes victimes de violences sexuelles sont bien là. Que faire? Le Fonds des Nations Unies pour la population s'investit dans le renforcement des capacités des médecins et autres infirmiers pour leur permettre de faire face à ces problèmes. Mesdames, Messieurs, bonjour. La Conférence épiscopale nationale du Congo félicite les peuples congolais pour sa maturité et l'esprit démocratique qu'il a démontré pendant les scrutins. À quelques jours de la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante, la SENCO appelle les candidats à se soumettre au verdict des urnes. Elle demande par ailleurs que les opérations restantes relatives au scrutin du 30 juillet dernier se déroulent en toute transparence. Abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la SENCO.
La SENCO considère que le fait que le peuple a parlé, la cause doit être entendue. Nous tenons à ce que toutes les opérations consécutives au scrutin se déroulent en toute transparence et sans faille pour que soit connue la vérité des urnes. Donc en fait, nous en appelons à tous ceux qui travaillent maintenant de faire les choses aussi sérieusement, aussi dans la transparence, dans la vérité.
Dans quelques jours, la CEI va publier les résultats provisoires. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux uns aux autres, donc les gagnants et les perdants?
Oui, pour les gagnants, nous disons, ils doivent vraiment être des rassembleurs pour gouverner l'État congolais comme ayant une seule visée, l'intérêt supérieur de la nation. Pour ceux qui seront dans ce que nous appelons la minorité constitutionnelle, nous demandons de faire preuve aussi d'esprit démocratique. Il y a un rôle positif qui est dévolu à l'opposition. Ils pourront aussi travailler à préparer plus tard l'alternance politique.
L'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la SENCO, était au téléphone de Aimé Nseya. Appelle également d'autres chefs de confessions religieuses en République démocratique du Congo, et qui a été donc l'appel a été lancé hier. Dans une déclaration commune, les chefs de plusieurs confessions religieuses lancent au peuple congolais tout entier un vibrant appel au calme et lui demandent de manifester encore sa maturité jusqu'à la publication des résultats définitifs. La déclaration est signée notamment par les responsables de l'Église protestante et de la communauté islamique en RDC. L'Église catholique en RDC, qui n'est pas signataire de ces premiers textes, a lancé un appel comparable dans une déclaration rendue publique hier et nous venons d'en parler. Il n'a fallu qu'un seul jour pour que les détenus de la prison centrale de Bounia se rébiffent. En effet, après la tentative d'évasion de vendredi, hier samedi, ils ont voulu rééditer l'exploit. Heureusement, cette fois encore, les éléments de la police d'intervention rapide veillent au grain. Cependant, malgré leur bravoure, on a dénombré des dégâts matériels. Isaac Raymond Yopé.
Portes et grilles des fenêtres cassées, archives de l'administration pénitentiaire brûlées, les derniers stocks en vivres pillés, tel est le bilan avancé par les directeurs de la prison centrale des Bounia. Selon Epicini Laurent, la tentative d'évasion de ce samedi est survenue après un mouvement de soulèvement d'un groupe de prisonniers qui réclamaient la nourriture. Il indique aussi que pendant ces soulèvements, les manifestants ont pris en otage des policiers des gardes. Un mouvement maîtrisé quelques temps plus tard par les éléments de la police d'intervention rapide. Saisi lors de son passage à Bounia ce samedi, les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies a annoncé la contribution de la MONUC face à la crise qui sévit au sein de cette prison ces dernières 48 heures, notamment l'approvisionnement en nourriture. William Lassiswing.
Bon, on a plusieurs suggestions. Il commence avec l'approvision d'urgence de nourriture au plus tard demain. Il y a des stocks qu'on puisse utiliser. On est en train maintenant de les identifier et de mettre en place des mesures pour donner cette nourriture si vite possible. Il faut essayer de voir les autres mesures. pour assurer les conditions plus humaines que celles qui existent actuellement.
De leur côté, les autorités locales décident l'ouverture d'une chambre foraine à la prison pour accélérer les jugements des détenus, aussi les transferts à Kinshasa d'une trentaine de prisonniers militaires. De Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
De la province orientale, rendons-nous au Katanga, dans le nord de cette province. Les autorités civiles s'en vont en guerre contre la pratique du lynchage dans les territoires des Kalemi. Des meetings de sensibilisation ont été tenus vendredi dans les quartiers populaires. Objectif, appeler la population à plus de respect des lois et de la vie humaine après des cas de règlement de comptes enregistrés dans la ville. François-Xavier Mibé.
Stop à la justice populaire. Personne n'a le droit de mettre fin à la vie d'un citoyen, quels que soient les motifs avancés. La vie humaine est sacrée et mérite un grand respect. C'est en ces termes que l'administrateur de territoire des Kalemi s'est adressé la Bible à la main à des centaines d'habitants de quatre coins. Les autorités du district ont ciblé à leur tour les quartiers Kamkolobondo et la place Kisebwe pour véhiculer les mêmes messages. Pour les autorités, la mort à coups de bâton et de pilon d'une fille d'environ 10 ans, accusée en début d'août de sorcier par les habitants du quartier Tumbwe, est insupportable. Les auteurs croupissent en prison. Le tribunal des grandes instances enregistre en juillet d'autres jugements pour des cas semblables. L'administrateur Jean-Louis Maliza et les autorités du district condamnent à l'unanimité la pratique du lynchage érigée en système. D'autre part, le tribunal de la collectivité Cheferi Tumbwe compte jusqu'en juillet une trentaine de condamnations pour sorcellerie. Dans cette situation, Kalemi conserve de tristes mémoires la mort par lynchage d'environ 40 personnes brûlées vives en 1993 et d'une dizaine en 1997, accusées par les habitants de provoquer ces années-là l'épidémie de choléra. Les autorités décident de la présence des policiers et du procureur du parquet des grandes instances lors des jugements coutumiers. Elles promettent de châtier sévèrement les personnes qui doivent se rendre coupables des lynchages après cette campagne de sensibilisation. François-Xavier Mibé, Radio Capi.
Une autre campagne de sensibilisation pour un changement de comportement dans un tout autre domaine. Cela se passe dans le sud Kivu, plus précisément à Bukavu. Dans cette ville, les jeunes du quartier Kasali, commune des Kadutu, ont commencé cette semaine à sensibiliser les habitants de leur quartier à bien gérer l'électricité. Après plusieurs mois de coupures, ces jeunes ont réussi à obtenir de la SNEL, la Société nationale d'électricité, une autre ligne de courant électrique. Aujourd'hui, ils veulent donc réglementer la consommation d'électricité pour que leur quartier ne replonge plus dans le noir. Reportage de Jean-Baptiste Ntonga.
Au quartier Kasali, une dizaine de jeunes sont rassemblés à la place ancienne Coopéra. Ils circulent dans différentes avenues de leur quartier pour convaincre les habitants d'utiliser moins de courant. Leur objectif, réglementer la consommation électrique afin de sauvegarder leur transformateur pour que leur quartier ne replonge dans le noir. Luku Okoko, président de la synergie des jeunes de Kadutu.
Plus de 50% dans notre quartier utilisent les courants abusivement. On va d'abord sensibiliser les gens pour que la population de Kasali puissent payer leurs factures. Ça, c'est un. Et d'aider pour que les gens puissent éteindre les lampes pendant la journée, parce que ça n'a pas de sens.
En effet, selon cet habitant du quartier, les gens laissent la lumière allumée même en plein jour. Muloko Godefroy, rencontré à l'ancienne Coopéra, s'exprime. Dans notre culture, les gens n'ont pas encore compris l'économie d'énergie électrique. Il ne faut pas laisser les lampes allumées inutilement pendant la journée. Et il faut aussi payer les factures de consommation du courant. Il faudra montrer à la population qu'il y a des normes à respecter pour que tout aille bien.
En collaboration avec la SNEL,
les jeunes de Kasali se sont engagés à décourager la fraude d'électricité appelée daoulage. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Okapi.
Retour dans la province orientale, après Bounia, rendons-nous à Kisangani, où les Boyomé ne savent plus où conserver le corps de leurs proches. L'unique morgue qui desservait la ville est tombée en panne depuis deux semaines. Selon le docteur Adlar Lofungola, médecin directeur de l'hôpital général de Kisangani, son institution s'investit pour remettre cette morgue à l'État. Toutefois, il sollicite l'intervention des hommes de bonne volonté pour la dotation de la morgue d'un bon système de protection.
La morgue était en panne plus de deux semaines. Le problème, c'était une panne de compresseur due au courant électrique. Parce que quand on a installé la morgue, on n'a pas prévu un système de protection. Mais nous, on a commandé un nouveau compresseur qui est arrivé. On a installé ça depuis hier. La morgue est fonctionnelle, mais nous craignons de démarrer cette morgue-là parce qu'on n'a pas encore trouvé solution au problème du courant. Parce qu'on peut le démarrer aujourd'hui, on commence à amener les corps, mais on n'a aucune assurance pour dire que ça ne fait plus se dédommager d'ici demain. Nous appelons vraiment la bonne volonté de la population de Kisangani, des autorités politico-administratives, s'ils peuvent nous venir en aide, nous aider avec un système de protection pour la morgue. En tout cas, ce sera le bienvenu à l'hôpital général de Kisangani.
Le docteur Adelard Lofongola, médecin directeur de l'hôpital général de Kisangani, au micro de José Deschartes Menga. Restons dans cette province, 6 motos et 10 vélos, dont du gouvernement destiné au territoire d'Isangi, ne sont pas encore arrivés à destination. Ils sont bloqués à Yangambi, chef-lieu du district de la Tchopo, à 100 km de Kisangani, par la seule volonté du commissaire des districts. Ce dernier estime que le gouvernement devrait commencer par doter les districts d'un moyen de déplacement avant de penser au territoire d'Isangi, une entité se trouvant au sein de sa juridiction. Les points avec Anselme Massoua.
Cela fait bientôt 2 semaines depuis que le territoire d'Isangi attend ses matériels. Selon l'administrateur de ce territoire, il n'arrive pas à comprendre ces blocages alors que tout est clair sur les documents qui accompagnent ces matériels. Crispin Kakwaka Katombe exprime son inquiétude.
J'ai eu l'information par la voie autorisée, c'est-à-dire le conseiller politique du gouverneur de province, par le directeur de cabinet du gouverneur de province, par le conseiller financier qui avait assuré la distribution, que les motos sont envoyées au territoire d'Isangi. Après avoir contacté les autorités, je suis descendu à Yangambi pour voir le conseil de district assistant chargé de l'économie, finance et développement, qui était parti retirer les motos sous prétexte qu'il avait un hors-bord et il pouvait acheminer ça à Isangi. Mais ce qu'il m'avait dit m'avait laissé perplexe et je n'ai pas voulu me prononcer. Je suis vraiment dépassé de ce genre de choses.
Pour le commissaire du district de la Tchopo, joint par téléphone, le gouvernement doit revenir sur la destination de ces matériels. Selon lui, ces motos et vélos devraient premièrement lui revenir car il ne dispose d'aucun moyen de déplacement pour gérer les 7 territoires de son district. De son côté, le directeur du cabinet de gouverneur de province qui a présidé la cérémonie de remise de ses biens s'indigne du comportement du commissaire de district. En attendant, il demande à l'administrateur du territoire de lui faire un rapport sur cette situation. Kisangani, Anselme Massoua, Radio Okapi.
Dans le Bandundu, à Kayemba, Laolinda, une jeune fille de 16 ans, est au centre d'un conflit. Le conflit oppose deux hommes, l'un de nationalité congolaise et l'autre, un ressortissant angolais, se dispute la paternité de Laolinda. La fille, arrivée en RDC à l'âge de 9 ans, avait disparu de la circulation depuis le 27 décembre 2005, au moment de sa remise par le parquet de Kayemba au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour l'amener à Kinshasa, d'où elle devait être acheminée à l'étranger pour y passer les tests ADN devant déterminer la vraie paternité de la fille. L'affaire est devant la justice. Au cours de la troisième audience de vendredi, le président du tribunal de Kayemba a auditionné les prévenus Paulin Kabileke, accusé notamment d'enlèvement de la fille. Les récits des faits depuis Kayemba avec Jean-Goma Makoko.
En 2002, tout va commencer à l'arrivée des réfugiés angolais à Kayemba. Fonseca va venir avec ses deux femmes et ses enfants, dont Laolinda. Mais au Centre national de réfugiés de Nampasa, près de 30 km de Kayemba, Laolinda va reconnaître le membre de sa famille congolaise. Elle dira que Fonseca, un ancien militaire de l'UNITA, aurait tiré sa mère avant de la prendre en otage et aujourd'hui la présente comme sa fille. Il y a 3 jours, l'avocat conseil du prévenu Paulin a remis la fille disparue au tribunal de paix de Kayemba. Au téléphone, Maître Noël, secrétaire permanent ad intérim, la commission nationale de réfugiés qui travaille en collaboration avec les ACR, a confirmé que cette institution des réfugiés a mis à la disposition de la famille 4 billets pour acheminer à Kinshasa M. Fonseca, la fille Laolinda, un membre de famille de Kadileke et le président du tribunal de paix de Kayemba pour les tests d'ADN hors de la RDC, test qui devrait départager les familles qui se disputent la fille Kayemba, Jean-Goma Makoko, Radio Okapi.
Signalons que l'audience d'hier a été renvoyée au vendredi 18 août prochain pour le réquisitoire et la plaidoirie. Faute de médecins spécialistes en gynécologie obstétrique au Maniema, le Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP a organisé un séminaire pratique de formation dans le cadre du programme conjoint. Ceci à l'intention des médecins et autres infirmières de quelques structures de santé ciblées pour une meilleure prise en charge des victimes de violences sexuelles. C'est ce que nous explique le docteur Mayete Zula Salanga, responsable du FNUAP à Kindu. Il est au micro de Gabriel Wamenya.
Au Maniema, il n'y a qu'un seul médecin qui est spécialiste et qui pouvait en fait prendre en charge les cas de fistules consécutives aux violences sexuelles. Presque la majorité des cas étaient transférés ailleurs, à Goma, à Bukavu. Comme au Maniema, trois zones de santé ont bénéficié d'un financement dans le cadre des projets conjoints, alors ce sont le médecin de ces hôpitaux et de ces centres de référence qui sont formés dans le cadre des renforcements de leur capacité dans la prise en charge des fistules. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons dit que bien, le médecin peut opérer, mais il faut qu'il y ait des prestataires pouvant faire le suivi du malade en post-opératoire. Voilà pourquoi nous avons associé les infirmiers de ces structures où ces victimes seront opérées. Vous savez, les fistuleuses viennent des Kailo, d'Alumbuli, de toutes zones de santé, pour que les victimes ne puissent pas chaque fois être déplacées jusqu'à Kindu, alors qu'il y a des gens qui peuvent bien les opérer sur place.
Docteur Mayete Zula Salanga, responsable du FNUAP à Kindu, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez les retrouver sur www.radiokapi.net. Merci une fois de plus d'avoir suivi ces journaux et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Okapi.